de lecture à voix haute pour tous les enfants des classes de CM2. À la clé, une grande finale à la Comédie Française avec Daniel Pénac et Guillaume Gallienne et une pluie de livres. Tous les renseignements sur radiofrance.fr.
Les 12 et 13 octobre, Poulain qui s'émasse.
Premier rendez-vous de la saison des week-ends de Radio France.
Mélodie, musique de chambre, musique de scène inédite.
Et l'histoire de Babar.
Avec Julie Fuchs.
Didier Sandre.
Pascal Roger.
Raphaël Sévère.
L'ensemble orchestral contemporain.
Les musiciens de la maîtrise et de l'orchestre philharmonique de Radio France.
Tous nos concerts au 01 56 45 16.
Et sur concert.radiofrance.fr.
France Inter.
La voix est libre.
Ils sont tous là pour la basse si j'y suis, alors c'est parti sur Inter.
Salut Daniel, j'appelle pour le numéro du Monde Diplomatique de ce mois-ci et le dossier sur Alain Soral. C'est un peu plaisir que le Diplo s'occupe d'Alain Soral parce que c'est vrai que c'est quelqu'un qui est sous-estimé, moi qui vis dans les quartiers populaires. Et ben les gens dans les quartiers parlent que de Soral, ils parlent que de égalité, réconciliation, etc., etc. Et ce qui m'embête le plus, moi, c'est qu'ils ne savent même pas que Soral, en 2007, je crois, il a dit « la France ne méritait pas Jean-Marie Le Pen ». Ou, par exemple, ils ne savent pas que Alain Soral est parti du Front National parce qu'il était en divergence avec les idées frontistes. Ça, ils ne le savent pas. Et quand moi, une fois, je suis parti à Marseille le voir en conférence et que je suis dans le 15e et que, si vous voulez, là-bas, il y a un tiers de la salle là-bas, un autre tiers, on va dire un peu les intellos du quartier, et puis le reste très populaire, et qui dit aux gens, si vous êtes au chômage, c'est la faute d'un banquier sioniste qui appuie sur un bouton à New York. Là, il est en train de faire de la propagande anti-israélienne, parce que dans la tête des gens, il faut savoir, dans les quartiers populaires, il y en a, ils ne savent pas faire la différence entre le sionisme et les juifs et Israël. Ils ne savent pas faire ça. Et lui, il joue de tout ça. Et le pire là-dedans, c'est qu'il est profondément raciste, antisémite, etc., etc. Mais ça m'a fait plaisir que le Monde Diplomatique a fait un article sur lui, mais il faut le prendre au sérieux, ce gars. Il faut le prendre au sérieux, ce gars. Enfin bref, allez, bonne fin de journée. Ciao.
Je suis vraiment consterné par le manque de sérieux de votre émission. Un numéro entier consacré à la Syrie et même pas la moindre petite interview sur un sujet géopolitique aussi grave de Bernard-Henri Lévy. C'est n'importe quoi.
Bonjour à tous les AMG, c'est le Café Repère d'Ena Beaumont. Alors le Café Repère d'Ena Beaumont fait sa rentrée et quand nous avons choisi le thème il y a 4 mois ou 5 mois, nous étions loin de penser qu'il ferait la une de toutes les médias aujourd'hui. Donc, ce Café Repère se tiendra le 17 octobre et nous accueillerons le collectif Fraternité Rome du bassin minier sur le thème Rome, mythe et réalité. Donc ce nouveau Café Repère aura lieu comme d'habitude au Café La Belle Anglaise, place Wagon et Nabomont, le 17 octobre à partir de 20h. Alors viens des nombreux au Café Repère des Nabomont, on vous accueillera avec grand plaisir. Au revoir.
Ce dimanche, me baladant à Paris, je tombe par hasard sur le rassemblement de Rome. Je suis un peu surpris, je vais voir ce que c'est, je me mêle un peu à la foule. Il y avait de la musique, c'était sympa, l'ambiance était très sympa, il y avait des vêtements bigarrés, il y avait... Alors je me suis mis à discuter un petit peu avec les gens. Et bien, figurez-vous qu'il y en a, des Roms, et pas mal même, qui parlent français, et même qui parlent bien français. Certains même couramment le français. Certains même sans accent. Et donc, voilà, je suis resté quelques heures allant de l'un à l'autre, discutant de ceci, de cela, et principalement de leur ras-le-bol d'être stigmatisés comme étant des voyous, des voleurs de poules, etc., etc. Et puis bon, bah, je suis rentré chez moi, comme d'habitude, j'ai enlevé ma veste et je l'ai suspendue au porte-manteau. Et avant de l'enlever, j'ai, comme d'habitude, porté la main à mon portefeuille pour le sortir de ma poche. Et là, vous ne le devinerez jamais. Eh bien, mon portefeuille était toujours là. Incroyable, non? L'excellent humoriste Thomas VDB a répondu à une question de Télérama. Que souhaiteriez-vous faire disparaître de Paris? A répondu, les pigeons. Il faudrait tuer tous les pigeons. Aussitôt, tombereau d'insultes sur Twitter et autres réseaux sociaux, des défenseurs des animaux, très indignés par ce qu'ils n'ont même pas compris être une plaisanterie. Bref, en réaction, Thomas VDB, sur son site, publie une vidéo où il dit qu'il veut rassurer les amis des animaux et que, bien entendu, il ne veut pas tuer les pigeons, mais que les pigeons est un mot de code pour désigner les Roms, et qu'en fait, ce qu'il conseillait, c'était de tuer tous les Roms. Et là, devinez quoi? aucune réaction sur aucun réseau social. Sans commentaire ?
Si, quand même, des commentaires. On a vérifié, c'est tout à fait authentique. Thomas VDV, vous le connaissez, vous l'entendez sur France Inter. C'est un humoriste excellent, très sympa. Et effectivement, c'est une histoire vraie. Il a effectivement une question dans Télérama. Il a dit comme ça pour rigoler, ce qu'il faudrait, c'est bousiller tous les pigeons dans Paris. On lui demandait qu'est-ce que vous voudriez faire disparaître dans Paris. Il a dit les pigeons. Et le site de la SPA a été envahi de messages. Vous savez, tous ces lyncheurs anonymes qui sautent tout de suite sur... voilà. Et ensuite, il a indiqué que, ben non, ce qu'il voulait dire, c'était les Roms qui étaient visés. Donc, humour au 18e degré, évidemment, énorme. Et là, aucune réaction. Voilà ce qu'il a dit sur son site, sur une petite vidéo de Thomas VDB.
Oh là là, qu'est-ce que j'ai pas dit là ? Ouh, ouh, ouh. Effectivement, de nombreuses personnes se sont offusquées sur le site de la SPA des propos que j'ai tenus dans une interview avec Télérama l'année dernière, dans laquelle on me demandait de quoi j'aimerais me débarrasser à Paris, et j'ai répondu ça arrête des pigeons. J'ai lancé l'idée de légaliser l'idée de la chasse aux pigeons, c'est vrai, voilà, à la dague et au canif, mais bon. Et donc voilà, beaucoup de gens se sont outrés sur le site de la SPA. Je voulais m'excuser par rapport à eux, parce que c'est vrai que je me suis un peu embrouillé avec toutes les histoires récemment de tout ça, les actualités, tout ça. Et en fait, le mot pigeon, évidemment, certains l'avaient reconnu, était un nom de code, bien sûr, j'avais oublié de le préciser avant, pour les Roms. Voilà, donc en fait, l'idée était de tuer les Roms. Imagine, ce serait excellent qu'on pourrait tuer les Roms. On ne tue pas les pigeons, hein. Voilà, ça, on touche pas aux pigeons, par contre, les Roms, on y va. Voilà, donc en plus, voilà, ce qui est qu'il n'y a personne pour les défendre. Donc en plus, vous ne serez pas embêté. Hein, vous pouvez y aller, on y va. Voilà, par derrière. Hein, n'hésitez pas par derrière, comme ça. Tous les Roms, les Roms à l'échelle. Tu es tous les Roms à l'échelle. Et pas les pigeons, par contre. Hein. Okay. Voilà, donc rendez-vous bientôt pour la chasse au renard.
Alors, on rigole, mais à moitié pour ce qui nous concerne ici à la base, si j'y suis, parce qu'en 1998, on vous avait présenté une série d'entretiens avec Hans Münch. Hans Münch étant le dernier médecin nazi d'Auschwitz, il était vivant encore à cette époque-là. Et il nous avait donné son témoignage sur les Roms du camp d'Auschwitz. Il avait assisté et participé à l'extermination du camp des familles Roms le 2 août 1944. Pour les propos qu'il a tenus, il a été poursuivi en justice, il a perdu bien évidemment. Münch est décédé depuis. Mais ce qui nous avait frappé avec l'équipe de la base où j'y suis à l'époque, c'est que lorsque nous avions diffusé ce que vous allez entendre à nouveau ici, eh bien, il n'y avait pas eu beaucoup de réactions indignées dans le répondeur de la base, si j'y suis, ni de façon générale. On revient sur cet épisode.
Bonjour à tous. Le repère de Paris 14, c'est dimanche prochain, 13 octobre. Nous débattrons autour du thème des croyances économiques et politiques. Il faut croire les experts, il faut croire les sondages, il faut croire ce que disent les médias dominants. Il faut croire qu'il n'y a pas d'alternative au système capitaliste. Eh bien, nous n'y croyons pas. Pour en discuter, venez nous rejoindre au café Le Magique, 42 rue de Gergovie, métro Pernetti, à 20h15. Toutes ces infos sont sur le site d'Hémosphère. À dimanche.
Jeudi 10 octobre à 20h30, au café Repère chez Marco, à Alban, projection débat sur le revenu d'existence. Jean-Pierre Béranguet, formateur professionnel d'adultes, militant de réseaux alternatifs comme le SEL, Ville en Transition, Incroyable Comestible ou Colibri, viendra nous présenter un film qui parle du revenu de base et des conséquences de la mise en place d'un tel système. Nous vous attendons nombreux.
On a tout simplement, tout d'abord, porté les Tziganes au nu et loué leurs qualités et leurs dons qu'ils avaient sur le plan musical et qui, en partie, se vérifiaient Mais d'un autre côté, on a toujours pu constater que d'un point de vue moral, c'était des misérables minables. À Auschwitz, c'était tout simplement... Et tout simplement, de haut en bas, on les a tous envoyés au gaz. C'était la seule solution. Tous sont allés au gaz, sans exception. Mais tout simplement, du point de vue de la discipline, il n'y avait pas d'autre possibilité à Auschwitz.
Ainsi parlait en 1998 Hans Münch, le dernier médecin nazi d'Auschwitz. En 1998, ainsi il parlait des Tziganes qu'il avait croisés, qu'il avait vus dans le camp d'Auschwitz, puisque le camp des Tziganes, le Zigeunerlager ou Familienlager, était très très proche de la fameuse rampe. Hans Münch, qui nous avait dit à quel point Mengele, le docteur Mengele, qui était à la fois son confrère, était resté son ami tout au long de leur vie à Raïsko, au laboratoire de Raïsko, et comment il en avait un bon souvenir. Parmi les Tziganes, les familles Tziganes qui étaient dans ce camp, les jumeaux et les nains, les enfants nains ou les nains en général, étaient prélevés et sur eux, Mengele, donc l'ami de Münch, faisait des expériences. Pour les propos que Münch a tenus, que je tenais à vous faire réentendre, il avait donc été condamné par un tribunal français. Ça nous donne un prétexte aujourd'hui, je crois, pour d'évoquer ce que fut la vie et la fin de ces Tziganes dans ce camp d'Auschwitz et plus généralement la vie des Tziganes et la mort des Tziganes dans cette Europe de l'époque, et puis évidemment avec une pensée pour ceux d'aujourd'hui qui souffrent d'une ségrégation que vous connaissez chez nous mais aussi à travers toute l'Europe. On a encore oublié les Tziganes. Salut, c'est Daniel Mermès et la passage si j'y suis, Samouda Ripon, on a encore oublié les Tziganes.
Flight number 2, arriving from New York.
Comment vous vous appelez, madame?
Gizela Kutsa.
Gizela Kutsa.
Da.
Et vous habitez où? Ici, à Bucarest?
Da.
Da. Oui.
Da, atunci am fost la Alexandrie. Când ne-a deportat.
Quand j'étais déporté, j'habitais dans le sud de Bucarest, à Alexandria, s'appelle la ville.
15 ans.
J'avais à l'époque 15 ans.
Tata era mort pe front.
Mon père, il est décédé sur le front.
Și a plecat mama cu noi cu 4 copii.
Ma mère, elle a été envoyée avec 4 enfants, on était déporté.
A venit într-o noapte poliția.
Dans une nuit, la police est arrivée.
Și ne-a luat așa cum am lăsat casele exact complete.
Ils nous ont enlevé.
Ne-a luat doar cu o legătură în mână.
Seulement avec des petites freins qu'on avait dans la main et on a laissé la maison sans rien prendre.
Și ne-a dus la Turnu.
Ils nous ont amené à Turnu Măgurele, notre ville à côté.
Ne-a pus pe Poian în genunchi.
Ils nous ont mis à genoux sur un champ.
Și ne striga pe fiecare panume și ne spunea să ne urcăm în vagoane din alea care transporta vite cu el.
Et puis, il nous appelait chacun sur notre nom. Et dès qu'on était appelé, on nous faisait monter dans des wagons pour les animaux.
Ah,
Et on était plusieurs familles
dans ce wagon. Il y avait une garniture entière de wagons.
Il y avait plusieurs wagons. C'était
garniture entière de wagons et plein encargats de cigares.
Wagons plein, plein de, avec des gitans.
Nous ne donnions pas à manger. Il y avait beaucoup de niște casernes, fără ușe, fără geamuri.
Après, dès qu'on est arrivé là-bas, ils nous ont mis dans des bâtiments sans fenêtres, sans portes. Il y avait des champs vides autour.
Eram chinuiți, eram amărâți, era lume care murea și treceam fiecare dimineață căruța și l-o strângea din fiecare casă câte 3-4 morți. Fete tinere, băieți tineri, oameni bătrâni, le arunca în căruță cum arunci niște metri de lemn. Altul cădea cu mâna în sus, altul cu picioarele în sus.
Chaque matin, il y avait un chariot qui passait dans tous ces établissements-là pour enlever les morts. Il y avait des jeunes, il y avait des femmes, il y avait des vieux. Ils les jetaient là dans ces chariots comme des morceaux de tronc de bois. Un avec une main en or, des pieds sous eux contorsionnés et les amenaient ailleurs du camp pour les enterrer.
Je faisais un tranchant mare, long de vreun kilometru. Și adânc așa, la 3-4 metri. Și îl ținea până îl umplea cu morți.
Et il le jetait dans un tranché long, très très long, et le tranché rempli avec les cadavres, il mettait seulement de la terre.
Et vous, vous aviez 15 ans, et vous avez vu ça?
Da, da, era măricică.
Oui, j'ai vu tout ça, j'étais une adolescente.
Era măricică, și știam, și plângeam.
Je pleurais.
Și plângea și mama, și frații mei, a mai micii.
Ma mère, elle pleurait aussi.
N-aveam ce să mai facem.
Mes frères plus petits. Mais on n'avait aucune autre chance.
A murit un unchi al meu de tânăr, flăcău.
Là-bas, il est mort un oncle à moi, qui avait environ 20 ans.
Mama mare, tata mare și alții.
Ma grand-mère, mon grand-père et des autres plusieurs.
Tras chinuri mari acolo și am stat 2 ani de zile.
On est resté là-bas 2 ans, on était tous désespérés.
J'ai jamais oublié Gitse Lagusta. C'était un après-midi d'hiver, un dimanche à Bucarest. Et dans une sorte de bistrot, un peu hirsute, on était quelques-uns comme ça, une lumière un peu entre chien et loup. Et avec ces Roms à Bucarest qui évoquaient le massacre des Roms et la destruction de ces Roms de Roumanie. Samoudaripen, le mot dit pas grand-chose, il évoque le génocide des Roms par les nazis. On a évoqué déjà à Auschwitz. Mais il y a eu d'autres endroits, notamment dans cette Roumanie, dans cette Transnistrie, où les Roms furent déportés à cette époque. Aujourd'hui, on a eu envie de revenir sur cette mémoire-là. Bien sûr, on n'est pas dans ces années noires, et les Roms, pas plus que d'autres, ne peuvent être réduits à la seule image d'un peuple errant et persécuté. Mais à l'heure où, à nouveau en France, au nom du marketing électoral le plus cynique et le plus minable, un gouvernement suivi par certains médias incite la haine raciale contre un peuple en proie à la survie, nous avons eu envie de revenir sur cette époque. C'est dangereux, cette comparaison a été sans doute trop faite dans le passé. Revenir à ces époques-là n'éclaire pas forcément notre présent. Mais si la conscience de cette mémoire était plus grande, il est bien possible que ce même gouvernement et ces mêmes ministres et ces mêmes médias qui les ont suivis aient peut-être un peu hésité avant d'en parler de cette façon. Avant d'évoquer cette époque, je vais vous faire une confidence. Je suis né le 16 décembre 1942 Et depuis, je crois, 25 ans qu'on fait cette émission, on travaille, on revient très souvent sur ce thème des Roms, des Tziganes, des Gitans, etc. Et le 16 décembre 1942, c'est le jour où l'Allemagne a décidé de la destruction des Tziganes. 16 décembre 1942, c'est ce jour-là qu'Heinrich Himmler, commandant militaire du Reich en France, a décidé de la destruction des Tziganes. Et depuis 25 ans, le jour de mon anniversaire, je pense aussi à ça. C'est jusqu'à 16h, ou presque, c'est la passe suis.
Le peuple, poporul, the people, the folk, gitan, tzigan, gypsy, tzigonor, disparaîtra, dispare, disappears, verschwindet, du monde, peppermint, der Erde. Alors, l'enfant, copilul, the child, the kind, nomade, nomade, renaîtra, revine, comme zurück, du désert, in der Schert, im Wüste. Mama vivra, renvie, geboren, du souffle, soufflul, breath, der Luft, de la mer, Mari, of the sea, des Meers et de la terre, Kschipamundului, des Wunds. Il, elle, he, er sauvera, salvesa, saved, und hilft, le monde, Pamundul. The world, the earth. Disparaîtra, renaîtra, vivra, sauvera. Disparaîtra, renaîtra, vivra, sauvera. Disparaîtra.
On va parler de Marcel Courtiade. Vous enseignez la langue romanie à l'INALCO à Paris. Vous êtes commissaire à la langue et au droit linguistique de l'Union Romanie Internationale. Vous allez nous dire ce que c'est. Quel mot faut-il employer, Rome ou Tzigane?
Les véritables Tziganes ont disparu au XIe siècle. Il s'agissait d'une secte qui venait de Perse et qui est venue dans les Balkans. Donc il n'y a plus de Tziganes depuis 1000 ans. Mais le nom de Tzigane est resté dans la mémoire des paysans d'Asie mineure et des Balkans. Et lorsque les Roms, proprement dit, sont venus d'Inde au Moyen-Âge, ils ont réactivé ce vieux nom de Tzigane pour le coller aux Roms. Donc quand on parle de Roms, ça peut être ambigu, parce qu'on appelle Roms, d'une part, l'ensemble des Roms, proprement dit, des Cintés, encore appelés Manouches en France, et des Gitanes d'Espagne, mais on le réserve aussi, parfois, à ces Roms qui vivent en Europe de l'Est. Donc ici, Roms, dans le cas du génocide, peut couvrir les deux sens. Mais de toute façon, il est bien préférable à Tzigane, pour les raisons que j'ai dites. Alors, et aussi pour la raison que c'était le terme employé par les nazis, Tzigoiner, la Tzigoiner plague, la plaie Tzigane, ou la peste Tzigane, ou l'abcès Tzigane. C'était les termes utilisés.
Ou Tzigoiner Lager, qui était
le camp des Tziganes, oui.
Alors justement, parlons de ce camp des Tziganes. Commençons par le passage des Tziganes à Auschwitz. Est-ce que vous pouvez évoquer ça?
Alors, Auschwitz est à la fois ce camp d'extermination, le Tziganer Lager, le camp des Tziganes. C'est aussi un symbole, parce que si on le replace dans l'ensemble de l'histoire du génocide contre les Roms et Sintés, ça n'a été qu'une petite partie du massacre. Il y a environ 25 à 26 000 Roms qui sont passés par Auschwitz. Pardon, 23 000 est passé à Auschwitz, dont 21 a été exterminé sur place. 2 000 ont survécu, mais ça n'est qu'une partie de ce génocide, puisqu'il a eu lieu surtout dans les autres camps. Et il a eu lieu, ce massacre a eu lieu aussi dans les forêts. Les Allemands entouraient un groupe de Roms qui s'était caché dans les forêts et les massacraient sur place. Ou bien on a eu pas mal de massacres aussi qui ont été perpétrés par des mouvements politiques qui n'avaient rien à voir de direct avec le Reich. Par exemple, les Oustachi en Croatie, les Tchétniques en Serbie. Aussi, on a eu des exactions comparables en Roumanie avec la déportation de 50 000 Roms de Roumanie au-delà du Dniestr, où beaucoup sont morts de faim, de froid, de maladies, etc. Les Ukrainiens aussi ont été encore plus zélés que la plupart des Allemands pour abattre les Roms. On a eu des massacres en Lituanie aussi. De ce fait, il n'y a pratiquement plus aucun Rom en Lituanie. C'est-à-dire que si je reprends le mot de plaie tzigane, c'est-à-dire la plaie qui a détruit les tziganes, cette plaie nazie qui a détruit les tziganes, elle dépasse très 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 largement Auschwitz. Il semble que parmi les premières victimes, on a eu 200 enfants qui avaient été raflés à Prague et qui ont servi de cobayes pour tester le Zyklon C, ce gaz mortel. Il a été d'abord testé sur 200 enfants roms qui avaient été raflés à Prague.
Alors, au total aujourd'hui, quel est le chiffre de victimes de l'extermination?
Les chiffres s'étendent entre 220 000 victimes et plus d'un million de victimes. En fin de compte, tout le monde est à peu près d'accord pour parler d'un demi-million, de 500 000. C'est le chiffre qu'on trouve un petit peu partout. Et de toute façon, ça ne doit surtout pas être instrumentalisé pour faire une espèce de concours à la victimisation.
Ion Irina.
Irina. Et ça, c'est votre nom roumain, mais votre nom rome, c'est comment?
Pupuica.
Monsieur, mon surnom, c'est Pupuica.
Pupuica, ça, c'est votre nom rome.
Il
y a beaucoup qui sont morts. Beaucoup.
Typhus.
De typhus.
Boile.
Oui, c'est une maladie.
Ça douche au taille.
Il y avait une fille qui est morte, elle était fraîche. Ils l'ont coupée, après ils ont commencé à manger. Il avait si faim qu'il mangeait de cette fille-là décédée.
Vous avez vu ça, vous?
Non,
oui. Ceux qui étaient les grands, notre famille... On était tous là.
Mais vous avez mangé de la chair humaine?
Alt, ça manque.
Non, des autres chasses, des gitans. Moi, non, je n'ai pas mangé de cette viande-là. Parce qu'elle était de notre famille, cette fille-là.
À chaque ma confirmation, dans le personnel, en vous que je me disais un kilomètre ou deux kilomètres là, vedam cum mănâncă dintr-o femeie carne, din pulpili.
Il fallait que je cherche à amener l'eau pour les autres et j'ai vu avec mes yeux quand il y avait des autres déportés qui mangeaient la chair d'une femme décédée de cadavre, lui mangeait la viande des jambes, des cuisses.
Mais qu'est-ce qu'on vous reprochait? Pourquoi on vous a interné? Quelle était la raison?
Motivo pentru morte. Comment vous nous tuer?
Parce qu'on était considérés comme les Juifs.
C'était très difficile.
Et maintenant, c'est aussi dur.
J'ai
pas de maison, je suis malade.
De când Iisus a plecat.
Alors, Martial Courtial, ce mécanisme, est-ce que vous pouvez l'évoquer? Parce qu'effectivement, là, on commence par parler d'Auschwitz, mais évidemment, il y a une histoire à ça. Est-ce qu'on peut replacer cette catastrophe dans une perspective historique, en quelques repères?
Le danger, évidemment, c'est de focaliser sur Auschwitz et de passer immédiatement à la partie la plus frappante et de tomber dans le sensationnel. Mais ce qui est au moins aussi important, en tout cas d'un point de vue pédagogique, c'est de comprendre tous les mécanismes qui ont abouti à cela. Et on a l'impression que c'était la tziganophobie, la haine des Roms, un petit peu partout en Europe, qui était latente, et que les Allemands n'ont fait que donner un signal de départ, puisque tout le monde s'est raillé, pratiquement dans toute l'Europe, sauf au Danemark et en Bulgarie. Tout le monde s'est raillé à cette folie de destruction des Roms, mais il semble que Hitler n'ait été qu'un catalyseur d'une tziganophobie très très largement partagée dans les différents pays d'Europe, à tous les niveaux. Depuis le peuple jusqu'aux dirigeants qui reflètent toujours plus ou moins les idées du peuple, même s'ils les manipulent particulièrement, certaines églises, etc., comme en Croatie. Mais les Allemands ont fait office un petit peu de fureur là-dedans, de conducteur pour cette opération qui a tout de suite pris et qui a eu lieu dans certains pays bien avant que les Allemands n'arrivent. Par exemple, les Allemands sont rentrés en 39 dans ce qui est aujourd'hui la République tchèque, mais déjà en 38, on avait des quantités d'articles qui appelaient à la destruction des Roms, qui étaient d'ailleurs appelés les Juifs noirs. Donc vous voyez comment le lien était fait dès 38, et puis on a vu avec l'application des mesures de destruction des Roms, les journaux qui titraient avec triomphalisme « Telle région est enfin délivrée des Tziganes, Zbavieno Tzikano, telle région ». L'une après l'autre, on avait l'impression d'une épuration vraiment qui se faisait, et ceci dans l'euphorie de la presse.
Il y a ça encore, si on veut remonter dans le temps, il y a ça, la science a apporté son appui à tous ces fantasmes raciaux.
Oui, la pseudoscience du 19e siècle sur les débuts de l'anthropologie qui était en fait l'idée de classer les races par une sorte de hiérarchie, depuis les races génétiques les mieux faites pour vivre et puis celles qu'on devait soit coloniser, exploiter, et ensuite on a vu que l'idée était arrivée jusqu'à les exterminer. Et dans le domaine rom proprement dit, l'Allemagne a là aussi été une sorte de chef de file. À partir de la fin du 19e siècle, on voit apparaître une série de lois qui sont directement et nominalement adressées aux Tzigeuners, en particulier en Bavière. Auparavant, on parlait des gens vagabonds, sans feu ni lieu, etc. Mais à partir des années 1860-70, on a vu apparaître des véritables lois contre les Tzigeuners, et ça a été couronné par la Tzigeunerzentrale, la centrale des Tziganes de la police de Munich, qui était dirigée par un dénommé Alfred Dillmann, auteur d'un livre, le Zigeunerbuch, une espèce de catalogue de tous les Roms de la Bavière. On a plus de 5000 noms qui sont entrés, et c'est précédé d'une préface expliquant pourquoi on doit se méfier tout particulièrement de ces gens. Et contrairement à ce qu'on aurait pu attendre, ce ne sont pas les vols de poules ou autres traits qui sont rentrés dans le folklore qui prévalent dans cette préface. L'accusation principale contre les Roms, c'est qu'ils n'ont pas de sang pur. Il est écrit que ce sont des gens qui, au départ, étaient à rien, mais qu'il n'existe plus aujourd'hui de sang pur tzigane. La plupart sont souillés par du sang tchèque. Alors pourquoi du sang tchèque ? Sans doute à cause de la proximité de la Bohème. Et qu'il n'existe peut-être que 2 ou 3 familles encore de sang pur en Hongrie et 5 ou 6 dans les Pyrénées, mais que tous les autres ont du sang impur. Donc on voit très bien comment, à partir de là, cette tziganophobie qui était diffuse dans les foules allemandes a pu se structurer autour de cette pseudo-science anthropologique et arriver à tous les prétextes qui ont été invoqués par les nazis pour détruire les Roms, et qui en fait n'étaient que des prétextes, comme le montre l'analyse.
– 500 000 sur les 700 000 qui vivaient en Europe à l'époque ont été détruits, c'est le mot, destruction, des Tziganes dans cette période, à l'exception, il faut le souligner, de la Bulgarie, et puis dans une autre mesure du Danemark également. On a dit aussi, le peuple Tzigane n'est pas un peuple du souvenir, c'est un peuple de l'oubli. On ne sait pas très bien de quoi est fait cet oubli et pourquoi est-ce qu'un peuple oublierait plus qu'un autre, même si des études et des témoignages ont montré que chez certaines branches roms, effectivement, on ne parle pas de la mort. C'est quelque chose dont on ne parle pas, c'est-à-dire qu'on avait assisté à ça d'ailleurs, à une soirée, une veille funéraire, à Bucarest, je crois que c'était à cette époque-là, où effectivement on faisait tout disparaître des traces
du défunt, cherchant dans sa maison les moindres traces de « est-ce que ça c'est pas un de ses cheveux ? Est-ce que ça c'est pas quelque chose qui lui a appartenu, qu'il a touché, etc. » Et puis on brûle tout ça. Et puis ensuite on ne parlera plus jamais de lui parce qu'on intériorise son souvenir. On n'en parle plus pour que ce soit plus à l'intérieur de soi. C'est une façon de commémorer, de célébrer les morts. Mais ça, c'est certaines branches. C'est un peuple à la fois qu'on ne peut pas réduire à un seul. Il y a une identité, mais c'est un peuple très polymorphe avec des branches très différentes, qui est peut-être d'ailleurs la garantie de sa survie. Mais ça regarde les anthropologues et les historiens tels Henriette Asseo que nous retrouvons.
Les Tziganes de Roumanie ont été déportés dans un territoire qu'on a appelé à cette époque-là, pendant la guerre, la Transnistrie, par le gouvernement roumain d'Antonescu.
Dictateur.
Conductator, comme on disait. Ce gouvernement roumain était l'allié de l'Allemagne. Et lorsque la décision d'attaquer l'URSS a été prise, la Roumanie a été mise au premier plan. Ils étaient influencés par l'ensemble des idées d'hygiène raciale qui sévissaient dans toute l'Europe. C'est plus que l'eugénisme. C'est au tournant des années 30, au lieu de penser qu'il suffisait, comme les eugénistes le pensaient, de liquider les éléments malades ou héréditairement tarés, entre, c'est les vocables de l'époque que j'utilise bien sûr, et c'est pas le mien, ils considéraient qu'il fallait faire une politique démographique sélective en anticipant la façon dont elle se passerait, donc liquider des populations tout entières. Alors les Tziganes ont été, à partir de 40-41, réellement déportés en Transnistrie. Dans cette zone, on compte que 20 000 personnes, dans un premier temps, ont été transférées par des trains. Et elles ont été lâchées dans la nature, dans des conditions effroyables. Les familles complètes, avec les enfants, les vieillards, les femmes. Rien à manger, mort de froid. En une seule journée, on peut compter, par exemple, 500 morts, simplement entassés les uns sur les autres. Dans le deuxième temps, le gouvernement roumain s'est tourné contre les Tziganes nomades, qu'il a décidé aussi de déporter. Il y a eu aussi des camps qui sont comme de véritables ghettos, à la façon des ghettos juifs de Pologne. En d'autres termes, la Transnistrie ressemble exactement à ce que les autorités appellent un dépotoir racial, et qui est le terme qu'ils emploient pour la Pologne. C'est-à-dire une zone de non-droit où quiconque n'est pas interné obligatoirement dans un camp, mais est destiné à disparaître.
Est-ce qu'il y a eu de la résistance ? Est-ce qu'il y en a qui ont essayé de s'enfuir ?
Oui, ils ont essayé. Plusieurs, ils ont essayé de s'enfuir. Oui, ils ont essayé. 9 ou 10. Ceux qui hachaient les arbres dans la forêt. Ils ont été attrapés et ils ont fait encore un rang des innocents. Et ils les ont tués, ceux qui s'étaient enfuis et l'autre, les innocents aussi ont été tués.
Ont été mitraillés. Mitraillés. Comme ça la mitraillette. Oui.
Donc, à fugir, en pushka 20.
C'était un fils 10 et ils ont tué 20.
Et est-ce qu'il y en a qui ont essayé de s'organiser pour résister ? Est-ce que c'était possible, ça ?
Non, ni tu me fais.
Non.
Ni tu me fais de résistance.
Non, aucune résistance parce qu'on n'avait pas le courage.
Il est impossible, il est indiscutable.
C'était impossible, il y avait pas lieu de discuter, de penser à une sorte de résistance.
Quand a venu en retragere, a venu sute de kilometri pe jos cu copiii după gât.
Alții le lăsa pe drum.
Avea mama o procoviță, știți ce însemna, din aia cu păr mare, alb așa. Noi spunem procoviță, pătură. Dar lăsasă. Și o desfăcea, să o puie pe fată care am o soră mai mică.
Sur le chemin de retour, on a fait des centaines de kilomètres à pied. On avait une sorte de couverture en laine avec laquelle ma mère, elle couvrait ma soeur plus petite.
Vous êtes revenu à pied?
Da, pe jos am venit.
Oui, à pied.
Și când a văzut-o, venea doi cazaci.
Il y avait deux cazacs qui nous
când
suivaient.
Când a văzut-o pe mama că îi desface procoiuța, a scos pistolul.
Et quand ils ont vu ma mère qu'elle sort la couverture, ils ont sorti le pistolet.
S-au pus și ca să-i dea procoiuța.
Pour la tuer, pour lui prendre la couverture.
Da. Și atunci am țipat la ea, zic, lasă-o jos că mori. Și atunci a lăsat-o jos.
J'ai crié à ma mère de la laisser par terre et là ma mère l'a laissé par terre pour pas être tuée. Ça c'est quand on revenait.
Dormeam în pădure, făceam focuri.
On dormait dans des forêts, on faisait le feu, on était assis autour du feu.
Ferească Dumnezeu și pe dușman de dușmanii noștri.
Que Dieu nous garde.
Ce am tras noi.
Que Dieu nous garde aussi nos ennemis de pas souffrir comme nous.
Vous dites que Dieu garde vos ennemis aussi?
Da, să nu mai ajungă în situația aia.
Oui, que Dieu garde aussi nos ennemis que ils n'arrivent pas à souffrir comme nous.
Am avut viața să nu mai dea la nimeni, Dumnezeu. Dacă trăia Antonescu și era în fața mea, eu îi scoteam ochii cu...
J'ai souffert beaucoup. Si maintenant Antonescu il était en vie, il se trouvait en face de moi, je lui arrachais les yeux avec une fourchette, moi avec mes mains. C'est très bien qu'il ait été tué. J'ai vu à la télé quand ils l'ont tué.
L'ont pușcat așa.
Il a été mitraillé.
L'ont pușcat și l'am văzut acolo mort.
Je l'avais vu mort. Ils ont fait un film.
Brăcuiam acolo.
Ah oui, je l'envoie au diable. Prr.
Marcel Courtiade, on continue avec cette évocation de l'extermination des Roms pendant la Deuxième Guerre mondiale. Racontez-nous ce qui s'est passé en France.
Alors en France, le régime de Vichy a devancé les volontés de Hitler, dans ce domaine comme dans beaucoup d'autres domaines. Il y a eu des rassemblements des Roms qu'on appelait nomades à l'époque officiellement, ou Roms à Nichel plus officieusement, dans une trentaine de camps, qui là aussi avait été totalement oublié pendant des décennies, jusqu'au jour où M. Sigaud, un instituteur, a découvert des ruines à Montreuil-Bellay. Et à partir de ça, il a mené une enquête et il a pu ramener à la mémoire de tout le monde ce que les habitants du village ne voulaient absolument pas dévoiler. Et à partir de Montreuil-Bellay, un certain nombre d'autres camps ont été retrouvés, à Lierre et d'autres. Enfin, il y en a eu plus de 30.
Il faut rappeler que ces camps avaient été établis avant la Deuxième Guerre mondiale.
Ils avaient été établis souvent pour des réfugiés espagnols. Et les Roms ont été enfermés sous prétexte qu'ils étaient trop mobiles et qu'ils risquaient de donner des informations à l'ennemi. Mais ça aussi, c'était un prétexte. C'était simplement une façon de justifier plus ou moins administrativement la concrétisation d'une tsiganophobie, d'une romanichélophobie, je pourrais dire même, qui était partout présente et qui l'est encore très largement. Alors certains ont été envoyés en déportation en Allemagne. Il y en a un certain nombre qui ont été massacrés dans les camps de la mort, mais un bon nombre aussi est mort de froid, de faim, de maladie, de manque de soins, etc.
Il y a eu des mesures, dès la déclaration de guerre, des mesures de mise en résidence surveillée, mais pas d'internement.
Henrietta Seau.
C'est en novembre 1940 que ces mesures de résidence surveillée sont transformées en internement permanent des familles. Et les préfectures manifestent le même enthousiasme et la même diligence que dans les questions juives pour procéder au repérage de ces familles bohémiennes et procéder à leur internement. Et ces familles, donc, sont restées pendant la guerre accroupir dans des camps qui sont de sinistre mémoire. Il y en a partout, à Montreuil-Bellé, à Mérignac, dans tous les camps de Vichy.
Alors, quelle est la responsabilité de Vichy là-dedans ?
La responsabilité de Vichy est, comme partout, l'anticipation, la diligence avec laquelle les ordres allemands sont interprétés.
Mais la déportation n'était pas à l'ordre du jour, pas plus que l'extermination.
Et elle n'a pas été demandée par les autorités françaises. Curieusement, alors que les Tziganes étaient pourchassés ailleurs dans des conditions les plus terribles, en France, les autorités allemandes, à partir du moment où ils ont obtenu l'internement de ces familles, s'en sont désintéressées. Par contre, en Croatie, on retrouve un modèle roumain, c'est-à-dire c'est les gouvernements locaux qui estiment qu'il doit agir contre les tziganes parce que ça pollue le sang croate. Et donc la population de tziganes a été là internée, selon un modèle donc, de camp et de ghetto. Le camp le plus célèbre, le plus sinistre, était le camp de Jasenovac, où plus de 20 000 personnes ont été internées. Alors tziganes et juifs mélangés, mais et puis résistants aussi. Et ce camp avait tout d'un camp nazi. Les femmes violées à plusieurs reprises, les enfants assassinés
par les oustachis là.
Par les oustachis, assassinés systématiquement. Un orchestre constitué de tziganes musiciens qui devaient jouer les jours de fête et qui étaient immédiatement liquidés derrière, exactement comme l'orchestre d'Auschwitz. Ce camp était un camp de plein vent, il ressemblait plutôt à Bergen-Belsen. Il n'y avait rien, même pas de baraquement, et les gens y mouraient des conditions d'existence. Dans ce camp, on retrouve exactement le modèle des camps nazis. Et il est essentiellement à usage. On l'utilise contre la population tzigane et juive, bien sûr, mais tzigane en particulier.
Quand est-ce que c'était gay dans votre vie ?
Non, moi, je ne
sais plus, j'ai oublié.
La loi
il y a 53 années qui sont passées et je n'oublie pas.
La loi en 42, je suis venu en 44. Deci ne-a ținut 2 ani acolo. Păi am avut destul timp să tragem chin. Chin și rabdă și foame și păduchi și mezerie.
De 42 în 44, c'était que la souffrance, les poules, la misère, la famine.
A fost greu.
Dificil. C'était dificil.
Mais c'est bien d'oublier aussi, on peut pas se souvenir de tout, hein?
La problème, c'est qu'elle a oublié les moments gays, pas les moments de souffrance.
Si le bon Dieu ne laissait pas l'oubli, soit qu'il crevait, soit qu'il devenait fou. Mais vous voyez, le bon Dieu, il a laissé ce chose-là, l'oubli, la souffrance.
Heureusement qu'il y a le bon Dieu qui permet qu'on l'oublie.
Oui.
Merci à tous et à toutes, c'était Samouda Ripen. On a encore oublié les Roms avec des archives de la base où j'y suis de décembre 1997 à Bucarest et des entretiens du 28 janvier 2005. Merci entre autres à Henrietta Seau et à Marcel Courtiade. Vous retrouvez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission. Là-bas, si j'y suis, vous pouvez également réécouter cette émission sur là-bas.org, là-bas.org. À la technique aujourd'hui, Pierre-Yves Derolin et Alice Berger. Cette émission a été réalisée par Jérôme Chélius et Franck Adhérer, préparé avec Jonathan Duong. Et Stéphanie Fromentin attend vos messages sur le répondeur de la base, si j'y suis, au 01 56 40 37 37. On se retrouve demain à 15h pour la base, si j'y suis. Tout de suite, vous retrouvez Hervé Pochon et son temps de Pochon.
Au moment de la libération du camp de Auschwitz, il n'y avait plus de Roms. Mais ceux qui étaient dans les autres camps, aussi bien en Pologne qu'en France, sont restés enfermés pendant plusieurs mois. Et pour certains, pendant plus d'un an, ils sont restés enfermés et encore dans des conditions pratiquement comparables à celles qu'ils avaient connues sous le régime nazi. C'est aussi quelque chose qui est oublié. On a encore oublié les Roms et là aussi, on les a encore oubliés dans les camps. On les a oubliés pendant plus d'un an dans les camps parce que administrativement, tout était bloqué.
Allez, 5, 4, 3, 2, 1 et 0. Et maintenant, sur France Inter, il va y avoir un temps de Pochon, mais ça ne va pas durer.
Vous êtes le plus âgé, là ?
Oui, je suis un retraité. Parce que moi, j'ai quitté l'école depuis 1974 et j'ai envie de reprendre mes études. Ouais.
Pour faire quoi ?
Par plaisir. Parce que j'ai été mal orienté en étant jeune.
Ah oui ?
J'ai eu des études de compta et moi, je voulais dans l'enseignement, donc je reprends mes études à la base. J'ai passé le brevet il y a 13 ans, et la même chose, je veux essayer de passer le DAE littéraire. Ouais.
Diplôme d'accès aux études universitaires. Ouais. Et vous avez de l'appréhension pour la rentrée, là ?
Du tout, non.
Et vous avez fait quoi comme métier avant ?
J'étais aide-comptable, et je travaillais à la poste aussi.
À la poste ?
Oui, dans les bureaux. Ouais.
Ouais. Je peux avoir votre prénom ?
Louis.
Bon, bah, bonne chance, Louis, alors.
Merci beaucoup.
Bonjour à tous et bienvenue à l'Université Paris Diderot où c'est la rentrée des classes pour le DAE, diplôme d'accès aux études universitaires. Il y en a un en littéraire et il y en a un dans les matières scientifiques. Et là, nous sommes dans une classe de littéraire et c'est le cours de français de Jean-Pierre Ferrigny.
Comment vous voyez les choses ?
C'est vous qui voyez, moi je vous...
D'accord. Enfin, vous êtes là, vous vous promenez, c'est ça, dans la salle ?
Non, je vais essayer d'être discret quand même. Parce que je vais aller faire... Qu'est-ce qui va se passer, monsieur le professeur ?
Écoutez, je vais introduire un premier cours. Hein. Donc, je vais déjà me présenter le DAE, le cursus.
Et alors, je voulais savoir, vous, qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir prof comme ça au DAE ?
J'ai un parcours un peu particulier. J'ai aussi arrêté mes études à un certain âge. Des études que j'avais à peine commencées, hein, parce que j'étais en désaccord avec le système scolaire, tout simplement. Ça ne me plaisait pas, je voulais faire autre chose, et j'étais un peu en révolte par rapport à ça. Et j'ai arrêté mes études, tout simplement. Et puis, j'ai repris à un moment donné mes études, et j'ai passé à l'époque, j'avais pas mon bac, j'aimais lire, hein, je lisais, et j'ai passé donc ce qui s'appelait à l'époque les œufs. Donc c'est le nom ancien du DAE. Donc, j'ai passé les œufs DAE maintenant à Jussieu. Et puis j'ai poursuivi mes études à Paris 7. Je suis allé jusqu'au doctorat. Les professeurs de Paris 7 m'ont donné à cette occasion, donc après mon DEA, notamment Marie de Pusset. Donc voilà, m'a donné l'occasion de pouvoir enseigner pour commencer ici en tant que chargé de cours.
Quel est votre plaisir alors d'enseigner ici ?
Alors, je pourrais pas, mais c'est pas du tout une critique, mais je pense que j'aurais du mal à enseigner dans le secondaire. Parce que ce qui me plaît, c'est justement ce rapport à, j'aime pas le mot, mais existentiel un petit peu. C'est-à-dire que comme il y a de la vie, entre le moment où on a interrompu ses études et puis le moment où on décide de les reprendre, il s'est passé quelque chose nécessairement, hein, qui fait que, il y a une matière là qui m'intéresse. Ce qui fait qu'on peut avoir une approche des textes, à mon avis, différente qu'avec un adolescent qui, lui, n'a pas la maturité, sans doute, pour aborder Proust ou Verlaine. Hein. Et là, on peut commencer à toucher. On peut jouer sur des résonances, à mon avis, qu'on pourrait moins faire. Ça m'intéresse beaucoup. Donc, bienvenue à vous. Je ne sais pas, peut-être que pour... Je pense que la majorité d'entre vous, c'est le premier cours, parce qu'aujourd'hui, c'est la rentrée. Certains ont peut-être déjà eu des cours, soit dans les options, soit de langue. En tout cas, ce soir, c'est le premier cours de français, enfin, français. Je préfère dire littérature. Il faudra que j'explique pourquoi, mais c'est vrai que c'est écrit français. Hein. Vous avez français, langue, et puis option.
C'est-à-dire que vous n'allez pas faire des dictées, quoi.
Je ne vais pas faire de dictées, non. Alors, c'est vrai que, d'une certaine manière, même si le DAE, c'est un équivalent du bac, on n'est plus au lycée, on est à l'université, on n'est plus vraiment des adolescents. Enfin, certains, peut-être, ont raté ou ont arrêté leur scolarité il n'y a pas trop longtemps, mais pour d'autres, ce n'est pas le cas. Donc, ce n'est pas quand même exactement le baccalauréat version, disons, lycée que vous préparez. C'est autre chose. Hein. Donc, c'est ce qu'il va falloir aussi essayer de définir, même si vous avez déjà eu, de toute façon, la journée porte ouverte. Vous savez, je pense, un peu de quoi donc il en ressort.
Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent dire quelque chose?
Bah, merci, moi c'est Juliane, j'ai 20 ans, j'ai arrêté mes études à 16 ans, donc en troisième. Là actuellement je travaille et puis j'ai décidé de reprendre mes études pour pouvoir poursuivre plus loin et voilà.
Vous savez ce que vous avez envie de faire?
Travailler dans les laboratoires esthétiques, enfin actuellement je travaille dans un salon esthétique, donc j'aimerais continuer dans les laboratoires, donc... Voilà.
En quoi le diplôme d'accès aux études universitaires peut vous aider?
Ça me fait gagner du temps en fait, comme j'ai quitté chez moi très tôt, c'est pour ça que j'ai arrêté mes études, donc je suis partie à 16 ans, donc voilà, c'est pour gagner du temps, pour pouvoir finir avec la plus rapidement en fait, voilà.
Ok, donc ce soir on va commencer, hein. Je considère que ce premier cours n'est pas qu'un cours d'introduction, puisqu'on va commencer l'école des femmes. Donc, vous n'avez pas vos éditions, donc je vais en tenir compte bien sûr, mais... Dès lundi prochain, essayez de venir avec le livre.
France Inter présente La grande et fabuleuse histoire du commerce au Théâtre des Bouffes du Nord du 9 octobre au 16 novembre. Ce qui est passionnant et vertigineux dans le métier de vendeur, c'est que le meilleur des savoir-faire, la meilleure des techniques, c'est l'authenticité. Dans ce métier, la meilleure façon de mentir, c'est d'être sincère. Tel est le propos de La grande et fabuleuse histoire du commerce, une pièce de Joël Pommerat. Retrouvez La grande et fabuleuse histoire du commerce dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr.
Vous écoutez France Inter, il est 16h. Le point sur l'actualité, Laetitia Gaillet.
Après Jean-Marc Ayrault, c'est au tour d'Arnaud Montebourg de monter au créneau à propos du plan de restructuration présenté ce matin par Alcatel-Lucent. Le ministre du redressement productif le trouve trop excessif. Il demande à l'équipementier de le réduire. Le plan prévoit la suppression de 10 000 postes dans le monde, dont 900 en France. Lutter contre le chômage, c'est la réponse selon François Hollande à la montée du Front National en France, faisant référence aux dernières élections cantonales partielles de Brignoles dans le Var. Le chef de l'État est dans la Loire aujourd'hui pour un déplacement justement à axé sur l'emploi et la formation. La cigarette électronique restera en vente libre. Le Parlement européen en a décidé ainsi aujourd'hui à Strasbourg. En revanche, les eurodéputés ont adopté une série de mesures contre le tabac. La vente de cigarettes mentholées sera interdite d'ici 8 ans. Les messages sanitaires prendront désormais 75% de la surface du paquet de cigarettes. L'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques annonce aujourd'hui qu'elle va envoyer une deuxième équipe d'inspecteurs en Syrie. L'OIS veut augmenter le rythme de vérification de l'arsenal de Damas. On ne sait pas quand ni qui composera cette deuxième équipe. Hier, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, pour sa part, avait déjà recommandé la création d'une mission conjointe des deux organisations. La destruction des armes chimiques du régime syrien a commencé dimanche. Le but est de rendre inutilisables tous les moyens de production de ce type d'armes pour le 1er novembre. On estime à 1 000 000 de tonnes l'arsenal de Damas. Les forces libanaises ont intercepté aujourd'hui un bateau de migrants. Il se dirigeait vers l'Italie. 5 personnes ont été arrêtées. Elles sont soupçonnées d'être des passeurs. Cette annonce survient quelques jours après le naufrage d'un bateau de migrants au large de l'île italienne de Lampedusa. Le dernier bilan, toujours provisoire, fait état de plus de 200 morts. SNCF et Réseau Ferré de France veulent tirer les enseignements de la catastrophe de Brétigny-sur-Orge en région parisienne. Ils ont annoncé aujourd'hui l'investissement de 410 millions d'euros jusqu'en 2017 sur la sécurité du réseau et ça concernera notamment le renouvellement des aiguillages.
Le procès sur le détournement présumé de plusieurs millions d'euros des caisses de la puissante IUMM, la Fédération de la Métallurgie. Le tribunal correctionnel de Paris a rejeté aujourd'hui les questions prioritaires de constitutionnalité qui avaient été déposées. Le procès peut donc continuer. 10 personnes sont sur le banc des prévenus. Et le procès doit durer jusqu'au 22 octobre prochain. La Cour d'appel de Paris confirme aujourd'hui les 100 000 euros d'amende pour Air France et CityJet. Une centaine de salariés accusaient les deux compagnies aériennes de travail dissimulé. CityJet est une filiale d'Air France. L'eau se raréfie dans les rivières du sud de la France, c'est ce que dit aujourd'hui une analyse basée sur 40 ans d'études de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques. L'ONEMA ne veut pas y voir un lien de cause à effet du réchauffement climatique, mais il ne l'exclut pas pour autant. En revanche, l'Institut de recherche sur l'impact climatique de Potsdam, lui, est plus vindicatif aujourd'hui. Selon son étude, le changement climatique va créer ou accroître la pénurie d'eau pour 500 millions de terriens d'ici la fin du siècle. L'Asie, l'Afrique du Nord et la région méditerranéenne seront les régions les plus touchées. Et si on part du principe, en fait, optimiste que le réchauffement sera contenu à 2 degrés supplémentaires d'ici 2100. Vous écoutez France Inter, il est toujours 16h03.
Tous les samedis à partir de 20h, le grand rendez-vous live de France Inter, présenté par Valy.
Cette semaine dans Live Me Do au studio Charles Trenet, une programmation de voix féminines. Avec le rock sensuel d'Anna Calvi. Le timbre envoûtant de Mélanie de Biasio. Et The Queens of the Stone Age, revu et adouci par Olivier Libaud. Créateur du projet Nouvelle Vague.
Live Me Do.
Pour assister à l'enregistrement de l'émission, rendez-vous demain, à partir de 18h, devant la porte B de la Maison de Radio France. Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles.
Le Crédit Mutuel donne le la à la musique sur France Inter.
France Inter.
La voix est libre.
Bonjour Frédéric Lodéon.
Bonjour Laetitia Gaillet, on vous retrouve à 17h.
À tout à l'heure.
Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous, vous le savez sûrement, Patrice Chéreau, metteur en scène, réalisateur de films et comédien, nous a quittés hier. Alors pourquoi je parle de lui ? Parce qu'il a mis en scène des opéras. Il a été le fils de Jean-Baptiste Chéreau, artiste peintre, et de madame née Marguerite Pélissier. Il a eu plein de responsabilités au Théâtre National Populaire, au Théâtre des Amandiers à Nanterre, président du jury du Festival de Cannes en 2003, administrateur depuis 2004, vice-président de la Cinémathèque française, président du conseil d'administration de l'École nationale supérieure des métiers de l'image et du son, la FEMIS, en 2007. Il a donné beaucoup, beaucoup d'œuvres, aussi bien au théâtre. Donc, il a été le metteur en scène chéri de toute une grande part des amoureux du théâtre. Et puis, au cinéma aussi, La chair de l'orchidée, L'homme blessé, César du meilleur scénario, Hôtel de France, Le temps et la chambre, La reine Margot, prix du jury du Festival de Cannes, ceux qui même prendront le train, etc., jusqu'à Persécution en 2009. Donc, Chéreau a mis en scène pas mal d'opéras, et l'Italienne à Alger, je passe, enfin Rossini, les Contes d'Hoffmann, d'Offenbach, Le Ring, sa grande affaire, L'anneau du Nibelung de Richard Wagner, avec Pierre Boulez comme chef d'orchestre, et tous les deux, ils ont secoué le festival de Bayreuth, au temple du conservatisme wagnérien. Ça a fait un scandale terrible en 1976, mais après, les spectateurs, les auditeurs se sont habitués, et puis cette version est restée tout à fait mythique. Nous avons une curiosité à vous proposer. C'est un extrait de l'histoire du soldat de Stravinsky, texte de Ramu. Et dans le début, on entend un peu Patrice Chéreau, parce qu'il y a une rencontre avec le diable qui est joué avec Antoine Vitez. Il n'y a que des grands noms d'ailleurs dans cette interprétation, puisque Roger Planchon, c'est le narrateur. On a aussi les musiciens de l'ensemble intercontemporain, et le chef d'orchestre, c'est Pierre Boulez.
Thank you.
Thank you.